Merci Seigneur, surtout pour sa présence. Vous croyez qu'il est là? Je crois qu'il est là présent, le Seigneur, et qu'il a quelque chose à nous dire ce soir. Il me l'a dit personnellement en premier, et je vous transmets simplement ce que j'ai pris pour mon compte, et ce que je prends encore pour mon compte, ce que Dieu a mis sur mon cœur, je le crois. Je vous invite à faire deux lectures pour introduire ces moments. La première, c'est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7 et au verset 1er. Matthieu 7, 1. « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » Et maintenant, Jean, chapitre 7 et verset 24. Le temps que vous trouviez la deuxième lecture, je vous reprends juste le premier verset de la première lecture. « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. » Et le deuxième texte, Jean 7, 24, dit « Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. » Amen. On a fait deux lectures. Les deux lectures viennent d'un même auteur. Qui est-il? Qui parle? C'est Jésus qui parle, c'est bien. Le premier texte, Jésus dit « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. » Et dans le deuxième, Jésus dit « Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. » Est-ce que Jésus était fatigué lorsqu'il a parlé la deuxième fois ou la première fois? Est-ce qu'il y a une des deux qui n'est pas bonne et l'autre à retenir? Ou est-ce que c'est plutôt à nous d'essayer de comprendre ce que Jésus voulait dire? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est la première ou la deuxième solution? Ouf, la deuxième. Ça va, vous avez bien répondu. Et oui, ces deux textes ne sont pas contradictoires, mais ces deux textes sont placés dans des contextes. Et les contextes nous enseignent ce qu'ils veulent dire. Il y a, dans la définition du mot « juger » ou « jugement », il y a deux définitions. La première, juger veut dire action, jugement veut dire action de juger, prononcer une sentence, un verdict. Je dis, lorsque je peux juger quelqu'un, je dis, eh bien, il mérite ceci, il mérite cela, je condamne la personne. Je condamne ce qu'elle est, je dis une sentence. Je commence à dire quelque chose sur la personne elle-même. Je dis, lui, il est bien, elle n'est pas bien, etc. Je donne un jugement sur la personne, une sentence, un verdict, je prononce quelque chose. Et dans notre monde, dans notre société, c'est exactement ce à quoi on nous encourage. Tapez 1, tapez 2, tapez A, B, mettez un tel ou un tel, envoyez un texto, c'est pas vrai? Vous connaissez ça? Vous avez vu toutes les émissions dans lesquelles on vous dit, voilà, eh bien, votez ceci, votez cela, etc. On vous entend différentes stars, différents chanteurs, différentes chanteuses, et on vous dit, voilà, dites qui vous préférez, et on vous demande d'apporter un jugement sur la personne. Et vous allez dire, elle, je l'aime bien, lui, je l'aime pas. Il y a même une émission qui s'appelle Un dîner presque parfait. Vous avez déjà entendu parler de ça? Il y en a, oui. Et vous avez vu comment les gens se jugent? Et ils usent même de stratégie pour avoir la meilleure note, etc. Et puis, il y a toutes sortes d'émissions. Bienvenue chez vous. Hein? Bienvenue chez vous. Où les gens, ils ont des maisons d'hôtes et ils vont accueillir chez eux. Et après, ils vont aller chez les autres. Et après, ils vont juger, ils vont mettre un jugement. Et dans notre société, la distraction de notre société, c'est de se juger les uns les autres. Aviez-vous remarqué cela? On nous encourage, dès notre petite jeunesse, à nous juger les uns les autres. Qui préférez-vous? Qui aimez-vous? Qui n'aimez-vous pas? Et puis lui, il est bien, lui, il n'est pas bien, et selon quels critères, etc. On va se comparer les uns les autres. Et Dieu n'est pas pour ça. Le premier texte qu'on a lu nous parle de cela. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Et le contexte, c'était toi qui vois la paille dans l'œil de ton voisin, réalise, toi qui es hypocrite, que tu as une poutre dans ton œil, commence par ôter la poutre de ton œil pour commencer à pouvoir aider ton prochain en lui conseillant, en lui en disant comment enlever la paille de son œil. Vous avez vu? Il nous est dit un petit peu dans ce contexte qu'il ne faut pas se juger les uns les autres, dans le sens se condamner les uns les autres. Mais juste après, le deuxième texte qu'on a lu dans Jean 7, 24, il est dit « Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. » Il est très très facile de juger la personne, de dire elle est bien, elle est pas bien, je suis d'accord, je suis pas d'accord, enfin, de mettre un jugement, de condamner la personne, de mettre une sentence. Et en vrai, Jésus lui-même interpelle ceux qui le jugeaient à lui en disant « Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. » Et le contexte, c'est Jésus qui fait un miracle. Et des hommes qui disent « Mais c'est le jour du sabbat. Tu fais un miracle le jour du sabbat, tu guéris quelqu'un. C'est pas bien ça. » Mais vous jugez sur l'apparence, vous me jugez. Et il disait même « C'est pas de Dieu cette affaire. » Ailleurs, ils vont dire « Tu fais ça par le démon, parce que tu fais ça le jour du sabbat. » Tu chasses les démons par les démons, avec les démons, parce que toi-même, tu es animé eh bien, par Satan. Et vous avez vu qu'on peut avoir un jugement complètement tronqué, complètement faux, juste à cause de la manière dont on le fait, et sur quoi et avec quels critères on le fait. Et il va dire « Jugez selon la justice ». Il va leur dire même « Si quelqu'un n'est pas circoncis, et que vous le réalisiez un jour de sabbat, vous allez rectifier la chose en le circoncisant ce jour même. » Ils étaient prêts à faire ça, parce que la circoncision, attention, mais par contre, guérir quelqu'un, eh bien ça, on ne peut pas le faire le jour du sabbat. Voyez les critères. Deux choses. Ne jugez pas la personne. Ne condamnez pas les gens. Cherchez leur bien, cherchez leur salut. Et vous-même, regardez d'abord à vous que vous n'êtes pas meilleur. Par contre, jugez de tout, c'est bien de juger de tout, mais faites-le d'une manière spirituelle et selon la justice. La deuxième définition est celle-ci, c'est une faculté, un jugement, c'est une faculté de l'esprit permettant de bien juger de choses qui ne font pas l'objet d'une connaissance immédiate certaine, ni d'une démonstration rigoureuse. Je reprends, c'est une faculté de l'esprit qui permet de bien juger des choses sans s'appuyer sur nos connaissances personnelles ou ce qui est évident, mais grâce au discernement que Dieu donne. Je vous l'ai dit différemment. La deuxième définition nous parle de discernement. C'est le mot qui résume la phrase qu'ils ont donnée. Dieu dit, ne jugez pas dans le sens de mettre une sentence sur les gens de condamner, mais apprenez à connaître ce qui est bon et ce qui est mauvais en jugeant avec du discernement. Il y a une différence entre condamner et avoir du discernement. Je ne dois pas juger pour condamner, mais je dois juger des choses et pas des gens pour discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais. J'espère que je ne vous ai pas encore perdu. Premièrement, mon premier point, c'est apprendre à ne point juger l'homme, mais les actes. Ne pas juger les gens, mais juger ce que l'on fait. Ce qui est fait. Je vous le dis comme ça. Souvent, on dit à quelqu'un, tu es un menteur. Au lieu de lui dire, tu as menti. Est-ce que vous comprenez la différence entre tu es un menteur et tu as menti? Vous comprenez? Il est très facile de dire à quelqu'un, tu es un menteur, et le cataloguer comme ça. D'ailleurs, ça fait des dégâts. Mais il est peut-être plus juste de dire, tu as menti et j'espère que tu ne vas plus mentir, pour ne pas devenir un menteur. Vous comprenez? Et ce n'est pas de la faiblesse ou de l'humanisme que de faire ça, c'est pas une manière cachée, c'est pas de la diplomatie, vous voyez, c'est simplement apprendre à juger les actes sans condamner la personne. Parce que je ne suis pas moi habilité, et personne au milieu de nous n'est habilité à condamner son prochain. Jésus dit lui-même, vous jugez selon la chair, et moi je ne juge personne. Est-ce que Jésus aurait pu juger n'importe qui? Est-ce que Jésus était habilité, lui, à un moment, à cause de sa position de personne qui n'a jamais péché, à dire, toi, tu es un pécheur, toi, tu es perdu, toi, tu mérites l'enfer, toi, tu ceci, tout ça. Il aurait pu s'en vanter, il aurait pu le faire avec justesse, sans se tromper même. Et Jésus dit, vous jugez selon la chair, vous permettez de juger, sans regarder à ce que vous êtes, vous voyez la paille chez l'autre, vous oubliez la poutre chez vous. Et moi, je ne juge personne. Quel amour et quelle douceur Jésus avait. Lui qui pouvait le faire, il ne s'est pas pris cette autorité-là, car ce n'était pas le temps de le faire. Jésus n'est pas venu dans le monde pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Un jour, il sera juge et il a obtenu ce pouvoir de juger à la croix, en triomphant du péché et de la mort. Jésus, dans Jean 8, va dire aussi, « J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. » Je répète, Jean 8, 26, prenez-le avec moi. « J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. » Jésus dit des choses, Jésus enseigne, Jésus relève des choses qui ont été faites ou qui viennent de leur cœur, leurs pensées, etc. Mais il va juger ce qui est en eux. Et à ce moment-là, Jésus n'était pas là pour juger les hommes, pour mettre une condamnation. C'est eux-mêmes qui se jugeaient en refusant de croire ce qu'il était. Ce qu'il va dire dans Jean 3, 17 et 18. Celui qui ne croit pas au nom du Fils de Dieu est déjà jugé. Pas par lui, mais par lui-même, par ses actes. Nos actes nous jugent et nous condamnent. Mais Jésus était venu là pour sauver et pour bénir. Il va dire, j'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Jésus, par cette attitude, nous enseigne à ne pas nous mépriser les uns les autres, non pas parler mal, nous juger les uns les autres, mais au contraire, à juger de tout, c'est-à-dire à savoir discerner dans les actions des uns des autres ce qui est bon, louable, mais aussi ce qui est mauvais et ce qui est répréhensible. Pourquoi faire ? Quel est le but de cette distinction que Jésus fait ? Eh bien que tous on s'exhorte, qu'on s'encourage, qu'on prenne soin les uns des autres pour tous arriver ensemble au ciel. Est-ce que on veut aller au ciel ? Qui veut aller en enfer ? Il y a quelqu'un candidat pour l'enfer ce soir ? Personne ne veut aller en enfer. Qui veut aller au ciel ? Moi je veux aller au ciel. Et qui veut que son voisin de droite ou de gauche, ou de derrière ou de devant, aille au ciel aussi ? Moi aussi. Je veux que tous vous alliez au ciel et vous voulez que j'aille au ciel ? Merci. C'est sympa. Super. Et oui, quand on a l'amour de Dieu en nous, on veut que tous on aille au ciel. Et on ne doit pas se juger les uns les autres. On doit juger les actions pour pouvoir non pas eh bien dire ça, tu mérites ci, tu mérites ça, mais pouvoir dire, fais attention, tu es en train de t'égarer. Fais attention, tu risques de perdre ce que tu as reçu. Fais attention, le diable risque d'avoir un accès dans ta vie et tu empêches Dieu de te bénir à cause de ce que tu fais ou de ce qui se passe. Prenez avec moi 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui ? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne le Saint-Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel ou l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Or nous avons la pensée de Christ. Verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Nous ne sommes pas amenés à juger les autres, mais à juger de tout, c'est-à-dire avoir du discernement par l'action de l'Esprit de Dieu en nous, pour savoir ce qui est bon de ce qui est mauvais, pour apprécier ce qui est bon, et pour rejeter tout simplement ce qui est mauvais. On a compris ? On ne doit pas juger les hommes, on doit juger les actions et les choses pour bien comprendre ce qui est bon, le recevoir, le rechercher, et rejeter ce qui est mauvais, car ça peut être une pierre d'achoppement pour nous, un sujet eh bien, de chute. Si je dois juger d'une chose, et si je dois apprendre à juger de quelque chose, il y a deux pièges que nous devons éviter. C'était mon introduction, je rentre dans le vif du sujet. Il y a deux pièges que nous devons éviter lorsque nous devons juger des choses. Pourquoi je dis tout ça ? Parce que dans les églises, et dans celle-ci ça risque d'arriver aussi, comme dans toutes les églises, dans le royaume de Dieu, dans le peuple de Dieu, il est en train de monter une manière de se juger les uns les autres, une manière de se critiquer les uns les autres, une manière de parler les uns des autres qui, je suis sûr, attriste l'Esprit de Dieu et l'empêche de faire les miracles qu'il voudrait faire dans notre cœur et dans les assemblées que nous sommes. Voulez-vous que Dieu puisse manifester sa gloire dans l'église de Sainte-Agne? Monsieur de Dieu, il le veut, j'en suis certain. Et chacun d'entre nous, qui le premier voudrait être guéri lorsqu'il est malade, miraculeusement? Ben moi. On voudrait que Dieu puisse agir au milieu de nous, alors il nous faut apprendre à bien juger des choses et à ne pas juger des gens. Comment bien juger des choses? Jésus a supporté deux jugements qui n'étaient pas de Dieu mais qui étaient des hommes et qui ont fait qu'il est allé à la croix. Pouvez-vous, qui a déjà réfléchi à ces deux choses? Jésus a été jugé par des hommes en premier, par, d'ailleurs injustement, un mauvais jugement, un jugement trafiqué, par qui? Par, premièrement, par les religieux, les sacrificateurs, etc. Un jugement religieux. Et deuxièmement, à qui on l'a amené Jésus, après être passé devant les sacrificateurs? À Pilate, un jugement politique. Et c'est les deux sortes de jugements qui commencent à rentrer dans les églises. Jugement religieux, c'est-à-dire la religiosité, on commence à juger parce qu'on est très très religieux et parce qu'on veut être très religieux. Et le deuxième jugement qui vient à naître et à grandir dans les églises, c'est un jugement politique. Je vais l'expliquer. On va lire ensemble dans Matthieu chapitre 26 et à partir du verset 57. Ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur, y entra et s'assit avec les serviteurs. Pour voir comment cela finirait, pardon. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir, mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. Enfin, il en vint deux qui dirent « Celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Ça, c'est répréhensible, ça, tiens. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi ?» Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit « Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit « Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant « Il a blasphémé, qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous ensemble ?» Ils répondirent, il mérite la mort. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage. Ils lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant, Christ prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Dès le matin, chapitre 27, verset 1er. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent un conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent ». Ils répondirent « Que nous importe, cela te regarde ». Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent « Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. » Et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël, et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Amen. Ce texte, cette lecture, nous prouve quelque chose. C'est que même si on connaît les Écritures, même si on connaît la Bible, même si on passe son temps à être versé dans les écoles, dans les études bibliques, même si on est allé à l'école biblique, comme ils y sont allés, et passé des années, peut-être toute notre vie, à pouvoir méditer, comprendre les Saintes Écritures, si dans notre cœur, on n'a pas l'humilité de reconnaître Jésus-Christ comme le Fils de Dieu, qu'on n'a pas l'humilité de reconnaître que nous sommes pécheurs, et que ce n'est que par grâce que nous pouvons être sauvés, je risque de devenir moi aussi religieux et de juger les autres à cause de mon hypocrisie. Pourquoi? Regardez ces gens. Quand Jésus dit, tu le dis. Quand il lui répond, oui, je suis le Fils de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait cet homme? Il déchire ses vêtements, le souverain sacrificateur Caïphe déchire ses vêtements. C'est exactement ce qui était demandé dans la loi de l'Éternel. Il déchire ses vêtements. C'était ce qu'il fallait. Il déchire ses vêtements parce qu'il y a eu un blasphème. Et normalement, on sortait la personne, on l'a lapidée. Et comme c'était interdit à l'époque, à cause des Romains qui étaient là, ils l'ont amené à Ponce Pilate. Mais regardez, ils sont capables de déchirer les vêtements pour obéir à la loi de Dieu. Mais juste après, il est dit, là-dessus, ils lui crachèrent au visage. C'est jamais écrit de cracher au visage. Ils lui donnèrent des coups de poing et des soufflets. Ça, c'était pas permis. Dieu permettait pas ça au passage. En disant, Christ, prophétise, il se moque de lui. Dis-nous qui t'a frappé. Ah, ces gens très très spirituels. Ah, il a blasphémé. Il faut, la loi dit qu'il faut le tuer. Très spirituel pour donner une condamnation, pour juger de quelqu'un. Mais après, ils remarquent même pas que juste après, ils font des choses que Dieu condamne, puisque dans le premier livre, chapitre des psaumes, le premier psaume, il est écrit de pas s'asseoir heureux l'homme qui ne s'assied pas parmi les moqueurs. Et ils se permettent, eux, de se moquer de Jésus-Christ. Et quand Judas va venir confesser eh bien, qu'il a vendu quelqu'un d'innocent, ils lui disent, ça te regarde, que nous importe. Vous avez vu quelle hypocrisie quand même. Ils sont prêts à condamner quelqu'un très très vite et ils oublient eux-mêmes qu'ils se condamnent par leurs actions. Et quand on est religieux, ben on dit, ah, la Bible a dit ça, ça mérite ça, une condamnation. Ah, la Bible a dit ça, ça mérite ça, ça mérite ça. Et on met la personne sous un joug, on la condamne, et on lui met un jugement sur elle, on se met nous-mêmes au-dessus d'elle, etc. En vrai, qu'est-ce que Dieu voudrait qu'on fasse lorsque quelqu'un fait quelque chose de répréhensible, ce qui n'était pas le cas de Jésus, puisque là, ils ont cherché des faux témoignages. C'est quand même quelque chose. Mais quand on est normalement spirituel, quand quelqu'un fait quelque chose de répréhensible, on le reprend comment? Entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as sauvé ton frère. S'il ne t'écoute pas, tu prends un ou deux témoins avec toi et tu le reprends. Et s'il ne t'écoute encore pas, tu le dis à l'assemblée. Et à cause du temps et du temps qu'il a eu pour se repentir, pour se remettre, eh bien, il y a eu quand même un temps où il a pu se repentir. Eh bien, à la fin, tu le dis à tout le monde et tu dis qu'il faut le considérer comme un païen. Voilà, il est redevenu comme un simple pécheur. Il a besoin de se repentir à nouveau et de repasser par une vraie, une profonde repentance, par la croix, et de se restaurer comme ça a été fait dans les Corinthiens suite à ce que Paul enseignera. Petite nuance, quand quelqu'un est en danger, et je me sens obligé de le faire, puisque dernièrement ça a été le cas, on a dû le faire, si quelqu'un est en danger, parce qu'il y a, on va dire, quelqu'un qui fait quelque chose de mal, et que ça met d'autres personnes en danger, je crois qu'il y a des étapes qui peuvent être sautés. S'il y a quelqu'un qui est comme un loup dans l'église, je vous donne un exemple. S'il y a un homme qui court après les jeunes filles, je crois que oui, on peut le prendre entre soi et lui seul, mais il faut aussi avertir les jeunes filles. Je le dis parce qu'on m'a posé la question sur ce qu'on devait faire, et je crois qu'il faut l'enseigner. S'il y a un danger dans l'église, eh bien, non seulement vous pouvez aller voir la personne, mais n'hésitez pas à le dire à un pasteur, allez voir Monsieur Gau, allez voir un ancien, Monsieur de Dieu, pour avertir, sans dire du mal de la personne, simplement dire, voilà, j'ai discerné telle chose, voilà, je vous le dis par correction, et que vous puissiez exercer eh bien, le fait de prendre soin du troupeau sur lequel le Seigneur vous a établi, comme c'est écrit dans la parole de Dieu. Mais apprendre à ne pas être religieux, légaliste, puisque la religiosité nous pousse à être légaliste. La religion pure et sans tache devant le Seigneur, c'est quoi? C'est de visiter les veuves et les orphelins dans leurs afflictions et de se détourner des souillures du monde ou de se préserver des souillures du monde. Jacques, chapitre 1, verset 27. La vraie religion, ce n'est pas de condamner les autres. La vraie religion, c'est de prendre soin des autres et soi-même de se préserver des choses mauvaises. Un jugement religieux. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'est l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité ou par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes ? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribue à la satisfaction de la chair. C'est dans Colossiens, chapitre 2, versets 16 à 23. Paul se sent obligé d'écrire aux Colossiens qu'il y a une sorte de religiosité, une sorte de piété, un semblant de piété qui peut devenir du légalisme et de la religiosité, qui peut devenir passer pour quelque chose de très saint, mais qui en vrai flatte la chair. Je lisais un livre de Watchman Nee tout à l'heure où ce frère indiquait que on peut même prendre la croix comme un sujet de gloire personnelle. Je souffre beaucoup pour le Seigneur. Je m'impose beaucoup d'abstinence. Je m'impose beaucoup de travail. Je porte ma croix, tu vois, et ça peut être un sujet de gloire personnelle. Et il nous faut nous rappeler, et il indiquait à juste titre, que nous ne sommes pas appelés à nous mortifier, nous ne sommes même pas appelés à simplement porter notre croix pour porter notre croix, nous sommes appelés à porter notre croix avant tout pour obéir à Dieu. Et que la chose que nous devons faire avant toute chose, c'est d'obéir à Dieu. Et si j'obéis à Dieu, peut-être que ça me fera passer par certaines abstinences. Mais ce n'est pas là le but. Le but, c'est l'obéissance à la volonté de Dieu. Je passe au jugement suivant. Et peut-être avant que je conclue, quand vous voyez dans l'église ou au milieu de vous ou autour de vous des personnes qui se jugent, tu vois, lui, le Shabbat, il le fait pas. J'ai reçu un mail, j'aurais dû vous le lire, de quelqu'un qui me disait qu'on n'est pas sauvé parce qu'on n'honore pas le Shabbat, le jour du sabbat. Et il me sort toute la loi de l'Éternel et toutes sortes de textes. Il me dit les 10 commandements, si les autres y sont encore valables aujourd'hui, pourquoi celui-là serait pas valable, etc., etc. Ce texte est la réponse. Ah, on vous flatte. Tu vois, le sabbat, si tu fais le sabbat, t'es très spirituel. Ah oui, c'est sûr. Mais c'est quoi l'esprit du sabbat? À quoi sert ce repos que Jésus a donné? Il faut regarder l'esprit, la justice qu'il y a derrière. C'est pourquoi faire? C'est pour se souvenir que Dieu est créateur de la terre et que si je suis sauvé de l'esprit du monde et du sort du monde, de l'enfer, de l'Égypte, c'est parce que Dieu a manifesté sa puissance pour m'en sortir. Vous lirez Exode chapitre 20 et Deutéronome chapitre 5 ou 6, les 10 commandements, les 10 paroles qui sont rappelées. Le sabbat, ce n'est pas juste fait pour de telle heure à telle heure ne pas faire des travaux. Le sabbat, c'est fait pour se souvenir que tout vient de Dieu et que tout est grâce. Et c'est ça le vrai repos. Savoir que ce n'est pas mon travail qui va faire que je vais être riche ou que je vais être spirituel. C'est simplement par la grâce de Dieu qui pourra agir en moi que je vivrai des choses exceptionnelles avec Dieu. Jugement politique. Je vous lis la suite dans Matthieu chapitre 27, verset 11. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, « N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse ?» Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Il avait alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient rassemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ ?» Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'ils étaient assis sur le tribunal, sa femme vint lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui.
les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent « Barabbas ». Pilate leur dit « Que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ?» Tous répondirent qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort « Qu'il soit crucifié !» Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit « Je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde ?» Et tout le peuple répondit « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Alors Pilate leur relâcha Barabbas et après avoir fait battre de verre Jésus, il le livra pour être crucifié. Ce qu'on vient de lire nous montre le faux jugement, le mauvais jugement que Jésus a subi, un jugement politique. Pourquoi Jésus a été crucifié au lieu d'être relâché? Résumez-moi ça en une phrase. Est-ce que vous y arrivez? Pilate, il a dit, sa femme lui a dit, c'est injuste. Pilate, il dit, il n'a rien fait. Donc, juridiquement parlant, il n'y a rien qui peut l'accuser. Il n'a commis aucune faute. Pourquoi est-ce qu'il va être crucifié? C'est un jugement politique, je l'ai dit. Pourquoi? Eh bien, parce que ça plaisait au peuple. Ça plaisait au peuple. Il préférait Barabbas que Jésus-Christ. Et encore là, c'est les sacrificateurs qui ont réussi même à influencer. Et l'un des dangers qu'ils jettent dans l'Église, qui commence à venir dans l'Église, c'est qu'avec les choses de Dieu, on cherche à faire de la politique. Vous verrez que de plus en plus, on va mélanger, et on commence à mélanger, la politique et les choses spirituelles. Et on croit que par notre position en Christ, on peut influencer la politique d'aujourd'hui. Et on est dans une société où c'est quoi qui règne? Est-ce que c'est une théocratie qui règne? C'est quoi la théocratie? C'est Dieu est souverain. C'est pas du tout ça, hein? Qu'est-ce que c'est? C'est une démocratie. Démos, qui en grec veut dire peuple. On est dans une démocratie. Et la définition de la démocratie, c'est une forme de gouvernement dans laquelle la souveraineté appartient au peuple. Vous croyez que c'est biblique, ça? Que ce soit le peuple qui a la souveraineté? Mais c'est pas possible. Et il ne faut pas croire, dans l'Église, dans nos cœurs, dans nos pensées, qu'avec une démocratie, on va vivre mieux, ou que par une adaptation des choses mondaines en spirituel, on va arriver à faire quelque chose. Le point de départ, la base, est corrompu. On veut donner le pouvoir au peuple. Faut-il un despote? Faut-il un dictateur? Je crois pas. Je crois que la solution, c'est que les autorités soient soumises à la grande autorité, à Dieu. Et tant que ça ne sera pas le cas, ça ne pourra pas aller bien. Combien de jeunes j'ai vus se lancer dans la politique, soi-disant au nom de Jésus-Christ, pour faire passer des valeurs bibliques dans la politique, et en ont perdu leur salut? Je peux vous le dire de témoignages personnels, de jeunes que j'ai vus. Ce n'est pas des oui-dire, c'est des choses concrètes. Et quand on commence à mêler politique et spirituel, et choses spirituelles, on se mélange parce que notre politique est basée sur la souveraineté du peuple. Et la souveraineté du peuple, c'est à la majorité. C'est ça? Et la majorité des Français ne croient pas en Jésus-Christ comme sauveur et comme Seigneur. Donc, ça ne pourra jamais aller dans le bon sens. Et est-ce qu'on doit se rebeller alors contre l'autorité en place dans notre pays? Est-ce que Dieu nous demande de prendre les armes? Est-ce qu'on doit mettre à bas Louis Croivet Bâton, comme on disait à l'époque? Est-ce qu'on doit se rebeller? Pas du tout. Toute autorité est permise, est instituée par Dieu. Je dois me soumettre à l'autorité, respecter l'autorité. Mais je dois comprendre que derrière, ce n'est pas Dieu, c'est pas les choses de Dieu qui vont gagner du terrain, c'est le diable qui manipule tant que Dieu le lui permet. Et je crois que parce que nous prions, notre pays peut être épargné de tant de choses. Vous croyez à l'efficacité de la prière? Moi, je crois que ma prière ne va jamais convertir quelqu'un. Mais par contre, ma prière va me garder de beaucoup de choses. Il est dit de prier afin que nous vivions en paix et dans la tranquillité. Si Dieu est dit de prier pour ça, eh bien, je crois que c'est valable. On peut prier pour ces choses. Mais dans nos cœurs et dans l'Église, il y a un esprit de démocratie qui commence à poindre le nez. Je ne parle pas de Sainte-Anne particulièrement, je parle de manière générale, dans ma vie
quelquefois dans mes pensées, croire que parce qu'il y a un vote, eh bien la volonté de Dieu s'accomplit. Je ne crois pas. C'est parce que tous on se soumet à Dieu que la volonté de Dieu va s'accomplir. Seulement, ce n'est pas un vote qui va montrer la volonté de Dieu, c'est sa parole et aussi son esprit qui nous communique sa pensée, d'où l'utilité de prier chacun pour notre part afin d'être inspiré par le Seigneur. Et dans l'Église, est-ce une démocratie? Est-ce que c'est les autorités du conseil d'administration et le pasteur qui vont être la voix de Dieu? Pas du tout. S'ils ne sont pas spirituels, eh bien, la conduite de l'Église ne sera pas spirituelle. Si par contre vous priez pour les membres du conseil, que vous priez pour les pasteurs, et que vous priez pour qu'on soit renouvelé, pour qu'on soit soi-même gardé de toute chute, que vous nous partagez aussi vos appréciations, ce que vous discernez. Quelquefois, vous pouvez dire « Ouh, Jérémy, tu as dit quelque chose, c'est faux, et ça ne va pas me gêner. Je vais vérifier dans la parole de Dieu, et si je le vois, je vais me corriger. » Et à chacun, on doit tous prier pour que ce soit Dieu qui règne sur l'Église, et ça passe par le fait qu'on prie les uns pour les autres et qu'on ne se juge pas les uns les autres. Un esprit de syndicalisme. Vous savez ce que c'est un syndicat? Qu'est-ce que c'est qu'un syndicat? Parce que j'ai vu des églises où on veut faire des syndicats. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un syndicat? Pardon? Un groupe qui milite. Ouais, c'est vrai. Alors la définition est beaucoup plus sobre. C'est des personnes qui s'unissent. C'est un fait social ou politique, c'est des personnes qui s'unissent pour défendre un intérêt commun. C'est sobre, hein? En vrai, ça passe souvent ça par des militants, hein? Une milice. On est là, on lève les drapeaux, on fait la grève, etc., etc. Est-ce que dans le royaume de Dieu, ça doit être ça? Répondez-moi. Est-ce que la chose qu'on doit défendre, c'est nos propres intérêts? En vrai, c'est ça. Est-ce que vous pensez que les syndicats ont leur place dans l'Église? Ou les petits groupes pour militer, pour défendre l'intérêt commun, nos intérêts? Pas du tout. Qu'est-ce qu'on doit défendre dans notre vie et dans notre cœur, avant tout? La vérité. On doit être des témoins de la vérité pour que la vérité soit défendue, bien qu'elle se défende elle-même, à quiconque est prêt à la recevoir. Est-ce qu'on doit se défendre soi-même? Pas du tout, il est écrit. Ne prépare pas ta défense. Le Saint-Esprit te donnera ce que tu auras à dire au moment même. Et encore, c'est dans un contexte, c'est pour te défendre des accusations qu'on fait sur toi à cause de ta foi. C'est un contexte bien particulier. C'est pas juste pour la maison, pour les choses comme cela. C'est à cause de notre foi. On n'a pas à défendre nos intérêts. Dieu s'occupe de nous. Je fais confiance à Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit juger les choses non pas avec un œil politique, c'est-à-dire le peuple, qu'est-ce qui va plaire au peuple, etc.? On doit juger vraiment avec l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Et on doit tous prier pour notre part. Je répète, on doit tous prier pour notre part et notre vie, à vraiment demander au Seigneur de nous donner du discernement sur les choses. Seigneur, accorde-moi du discernement pour comprendre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Parce qu'en apparence, certaines choses peuvent paraître très très spirituelles et en vrai ne le sont pas. Et des choses peuvent paraître très très charnelles ou inutiles. Et en vérité, c'est Dieu qui conduit la chose de cette manière. À nous de demander au Seigneur du discernement. Et comment j'ai du discernement? Eh bien, simplement, en étant en communion avec Dieu continuellement. Parce que si je suis lié à Dieu, si je suis en communion, si je suis en relation avec Dieu régulièrement, il aura l'occasion de me parler. Mais si je n'ai aucune intimité avec Dieu, il ne peut pas me parler. Alors que si je suis avec lui, son esprit peut me dire « Fais attention à ça, c'est mauvais ». Ou, tu sais, regarde à ça, eh bien ça je te le donne, ça c'est de Dieu, vas-y, etc., etc. Comment savoir comment choisir son époux, son épouse, sa maison, une voiture, toutes les choses de la vie? Il ne faut pas rentrer dans un légalisme, les voitures rouges, c'est anti-biblique, les voitures rouges, c'est bien. Mais vous savez que des fois on en est venu à ça. J'ai entendu des choses hallucinantes depuis que je suis né, puisque je suis fils de pasteur. Le noir, c'est diabolique. Dernièrement, j'ai entendu ça. Du noir dans l'église, c'est anti-biblique. On me l'a dit. Le noir, c'est diabolique. Le blanc, c'est divin. Vous croyez ça? Enfin, rassurez-moi. Est-ce qu'on n'a pas besoin de plutôt, au lieu d'être religieux, est-ce qu'on n'a pas plutôt besoin de dire, Seigneur, donne-moi du discernement sur les choses. Ne pas juger selon l'apparence, mais juger selon la justice de Dieu. Ce qui est juste, c'est-à-dire selon la volonté de Dieu, avec simplicité. Je termine avec une petite chose, une petite anecdote qui est vraiment arrivée. Qui connaît la bataille de Trafalgar ? Vous connaissez ce que c'est qu'un Trafalgar, hein ? Mais pas le Trafalgar. Qui a entendu parler de la bataille de Trafalgar ? Personne ? Moi non plus, j'en avais jamais entendu parler jusqu'à tout à l'heure. À la bataille de Trafalgar, l'amiral Nelson était en train de donner ses instructions à ses officiers quand il s'aperçut que l'un d'eux était absent. On lui en apprit la cause, il n'était pas en bon terme avec un autre officier. Aussitôt, l'amiral envoya chercher l'absent et quand il fut arrivé, il plaça sa main dans celle de son adversaire. Puis étendant la main vers le large, où on pouvait voir les navires de la flotte ennemie, il dit ces simples mots. C'est là-bas qu'est l'ennemi. Vous avez compris là, l'image ? Devant un tel argument, ces deux hommes oublièrent leur désaccord et se réconcilièrent sincèrement. Or, il y a quelqu'un de plus grand que Nelson, notre chef, le Seigneur Jésus. Nous sommes à son service engagés dans le plus terrible des guerres contre Satan. Laissons-le placer lui-même nos mains dans celles de nos frères. Quand il se produit des dissentiments entre eux et nous, en face de l'ennemi, tout désaccord entre les combattants peut faire perdre la bataille. Réfléchissons aux conséquences qu'un refus de réconciliation peut provoquer dans l'œuvre du Seigneur. On n'est pas là pour se juger les uns les autres, on est là pour avoir du discernement, pour savoir ce que Dieu veut. Et pour discerner aussi l'ennemi, parce que son rôle à lui, c'est de mettre la division dans le corps de Christ. Et ça peut paraître très très sage avec un esprit de religiosité, ça peut paraître très raisonnable avec un esprit politique, faut plaire à tout le monde, la majorité a raison. Mais ce n'est pas du tout ce à quoi Dieu nous appelle. Jésus est mort à cause de jugements comme cela. Bien sûr, on sait que c'était dans le plan de Dieu, puisqu'il y a eu le jugement de Dieu, la colère de Dieu qui est tombée sur lui pour nous l'épargner. Mais c'est à cause de choses comme ça, d'un tel état d'esprit, qu'on peut commettre les pires erreurs de notre vie. Vous ne croyez pas que les sacrificateurs ont fait une belle erreur quand même ? Et vous ne croyez pas que Pilate a fait l'erreur de sa vie ? Même s'il s'est lavé les mains, je ne crois pas que ça change grand-chose. N'ayons pas les mêmes erreurs, ne commettons pas les mêmes erreurs, comprenons. Qu'il nous faut du discernement sur les choses. Les trois passoires, l'histoire des trois passoires. Deux chrétiens s'entretenaient de choses très sérieuses. Mais tout d'un coup, la conversation dévia et prit un tour très différent. L'un d'eux se mit à émettre des doutes sur les sentiments de tel ou tel, ou même sur leur moralité. « Attention, dit l'autre, j'aimerais bien savoir si cela peut passer par mes trois passoires. » « Que voulez-vous dire ? » ?»« Eh bien d'abord, je vous demanderai si votre histoire est vraie. Êtes-vous bien certain ?» de ce que vous avancez. La Bible dit de ne pas juger sur un oui-dire. Deuxième chose, « Oh, fit l'autre, c'est un tel qui me l'a raconté lui-même. Pourtant, il est un grand ami de autre tel. Cela ne veut rien dire, il y a malheureusement de faux amis. » Secondement, « Êtes-vous certain d'être dans l'amour recommandé par l'apôtre Paul lorsque vous dites ces choses ?» Deuxième passoire, deuxième filtre, c'est l'amour. Est-ce que je dis ça avec amour et par l'amour et pour l'amour ? Non, je ne le pense pas. Troisièmement, est-ce utile de raconter ces choses ? D'en parler ainsi ne changera rien et ne fera aucun bien. Arrêtez-vous donc, puisque ce que vous dites n'est ni certain, ni dans l'amour, ni utile. Avons-nous ces trois passoires ? Et surtout, savons-nous les utiliser pour arrêter les propos qui ne sont ni certains, ni charitables, ni utiles ? Proverbe 10:19 dit ceci, « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. » Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Et comme il ne faut pas parler beaucoup, je m'arrête. J'espère que vous avez réussi à avoir un peu d'attention, des choses peut-être profondes, des choses plus concrètes, sérieuses, qui demandaient une attention certaine. Je l'ai fait de tout mon cœur, j'ai essayé de vous les faire passer du mieux que je peux. Mais comprenons que le jugement que Dieu nous demande, ce n'est pas un jugement d'après une religion, ni un jugement politique d'après la majorité, ou d'après ce que les gens pensent. Mais du discernement avec le Saint-Esprit. Amen. Seigneur, tu vois l'esprit qui gagne ce monde, tu vois le diable aussi qui se plaît à faire en sorte que le corps de Christ soit divisé. Nous ne voulons pas attendre les divisions, attendre les querelles, attendre les scandales pour nous préoccuper de ces choses. Nous voulons d'avance recevoir ton enseignement afin de ne pas tomber dans ces choses, afin de ne pas être pris au piège, mais de veiller sur notre cœur. Peut-être quelque chose avait-il commencé à germer ou avait été semé dans notre cœur, une différence, un différent avec un prochain et l'envie de se justifier, l'envie même peut-être d'en parler à d'autres pour critiquer. Seigneur, accorde-nous cette sagesse. Donne-nous de vraiment comprendre quelle est ta volonté et comprendre quel est le moyen de te plaire afin que tu puisses accomplir toute ta puissance et tes promesses dans cette assemblée à Sainte-Anne. S'il te plaît, garde-nous vraiment de ces choses et donne-nous de rentrer dans les choses merveilleuses que tu attends de nous. S'il te plaît, accorde à chacun d'entre nous du discernement. Donne-nous d'être près de toi, de penser aux choses spirituelles, de repasser tes textes, tes saintes écritures dans nos cœurs et dans nos pensées afin que nous puissions être alertés, être prévenus et être empêchés de tomber dans les pièges de l'ennemi. Nous ne voulons pas laisser d'accès, nous ne voulons pas laisser une brèche dans la muraille que tu veux que nous formions chacun pour cette assemblée. Alors oui, Seigneur, ensemble, nous nous tiendrons à la brèche, nous nous tiendrons à notre poste comme une sentinelle et nous voulons veiller les uns sur les autres et ne pas nous surveiller les uns les autres. Oui, sois béni encore de nous enseigner ces choses pour nous éviter toutes sortes d'écueils et de pièges. Que ton nom soit glorifié parce que tu es ce berger véritablement qui prend soin de son troupeau et de ses brebis. Amen.